Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être, tous les jours en direct du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Comme tous les jours, pendant une heure, il est avec moi dans ce studio pour prendre soin de nous tous, moi aussi, hein, j'ai le droit.
Oui, ouais. Évidemment, bonjour.
Allez, c'est
Mélanie.
Le docteur Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour
Jimmy.
Bonjour à tous.
Au sommaire, ce mardi, on va s'intéresser à nos yeux et à tous les problèmes de strabisme, ces problèmes d'alignement des yeux. À partir de quel âge faut-il s'inquiéter face à un enfant qui louche, par exemple? Quand faut-il consulter? Et surtout, nous verrons que la réponse médicale, le traitement, peut différer en fonction de la gravité du strabisme, l'opération n'est pas systématique. Pour parler de tout cela, notre invité, ce sera le professeur Dominique Brémond-Gignac. Elle est chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker, enfants malades. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, aujourd'hui focus sur les calculs rénaux. Comment se forment ces petits cailloux? Quels sont les signes qui doivent pousser à consulter? Et surtout, comment les traiter? Jimmy va tout nous expliquer. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous dira comment expliquer le fait que certaines personnes ne font absolument aucun bruit, n'extériorisent absolument rien durant les rapports sexuels.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, ouvrons ce magazine santé avec le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer aujourd'hui par cette interrogation de Catherine. On l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Alors voilà, moi j'ai super peur de prendre l'avion. Je ne sais pas trop d'où ça vient exactement, mais vraiment, c'est impossible pour moi de le prendre. Sauf que j'aimerais vraiment bien pouvoir voyager tranquillement. Alors j'ai déjà essayé l'hypnose, mais ça n'a rien fait. Qu'est-ce que je peux faire de plus selon vous? Je vous remercie d'avance.
Alors, pour vous répondre Catherine, nous avons contacté pour vous un spécialiste de la prise en charge des phobies en tout genre. Il était venu nous en parler sur ce plateau, c'est le docteur Éric Malbos. Il est psychiatre enseignant et chercheur au pôle psychiatrie du CHU Conception à Marseille.
Alors pour Catherine, qui effectivement a cette peur de l'avion, qui est une peur très classique, on voit beaucoup de patients qui souffrent de ça, et ça les empêche de voyager. L'hypnose peut être une solution, mais qui ne marche pas dans tous les cas, parce que ça dépend de la suggestibilité. Donc la conclusion, c'est qu'il y a d'autres moyens. Et ces moyens, c'est la réalité virtuelle, c'est-à-dire en fait de faire des psychothérapies, par exposition à la réalité virtuelle, où là, elle peut s'exposer tranquillement et à son rythme à des avions en 3D et faire toutes les étapes, comme rentrer dans un aéroport virtuel, commencer avec un avion qui ne décolle pas avec le sas ouvert, et en même temps faire des méthodes de thérapie cognitivo-comportementale. En combinant les deux et avec la douceur qu'offre la réalité virtuelle sur plusieurs séances, elles pourront ainsi retrouver la liberté et l'autonomie qu'elles recherchent. Et donc vous pouvez trouver en fait les thérapeutes, psychiatres et psychologues qui proposent cette thérapie sur le site phobie.com.
Voilà, phobie.com. C'était le docteur Malbo au micro de Barbara Silvera Sonigo. Jimmy, on va prendre une seconde question. Celle-ci, elle est pour vous. C'est Vianney qui nous a appelé avec une interrogation assez étonnante. Écoutez.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question pour vous. Avec mes amis, on aimerait faire du naturisme cet été et c'est la première fois pour nous. Et du coup, je me pose la question, comment doit-on se protéger au niveau du sexe notamment par rapport au coup de soleil? Étant circoncis, je m'interroge beaucoup sur un éventuel risque. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonne émission.
Bon, une question médicale, j'avais peur qu'il vous demande vos adresses de naturisme, Jimmy. C'est pas commun hein, comme question, mais rien ne vous fait peur. Ici, toutes les questions de toute façon ont leur place tant qu'elles ont un rapport quand même avec la santé, bien évidemment. Alors Jimmy, est-ce que vis-à-vis des... Alors moi, j'imagine que c'est des risques solaires parce que c'est pas très détaillé, il dit comment se protéger le sexe, donc comment protéger ses parties génitales vis-à-vis du soleil, il y a des précautions à prendre selon
alors,
vous?
Alors de principe, on protège avec un slip, c'est-à-dire qu'on met des vêtements justement.
Mais là, le principe du naturisme, oui, c'est qu'on n'en met pas.
Donc, mais parce qu'on peut bronzer effectivement du zizi en fait. Hein, sur le gland et sur la verge, vous avez des mélanocytes, c'est-à-dire des petites cellules de la peau qui vont réagir au soleil. Le problème, c'est qu'évidemment, lorsqu'elles sont exposées, eh bien, ces zones peuvent prendre un coup de soleil. Or, le coup de soleil sur le zizi, j'ai jamais expérimenté, mais
ça
je
doit être
pense
douloureux.
Que ça fait mal. Ouais. Et puis, à l'inverse, j'aimerais juste vous rappeler que certains proposent de bronzer du périnée. C'est une tendance,
ah bon,
une influenceuse, une instagrammeuse qui dit que 30 secondes de lumière au soleil sur votre anus, c'est l'équivalent d'une journée complète de soleil
vous
avec vos vêtements.
Vous êtes documenté,
je vous assure. Et surtout, elle ne propose aucune crème solaire. Et le risque,
là là.
Donc évidemment, c'est le coup de soleil, le vieillissement prématuré de la peau. Imaginez un zizi tout flétri au bout d'un été simplement à s'exposer, c'est problématique. Et puis plus grave encore, c'est que vous allez exposer vos parties génitales à un éventuel cancer. Alors ça, c'est moins drôle parce qu'évidemment, on peut avoir un cancer de toute zone exposée.
J'ai du mal à continuer, Jimmy. Là. Alors, on peut vraiment avoir une lésion, un cancer cutané dans cette zone-là? Ça existe? Enfin, c'est possible?
Oui, évidemment. Toutes les muqueuses, qu'elles soient exposées ou non, peuvent être le siège d'un cancer. Et puis, je vous rappelle un chiffre tout simple. 5 coups de soleil à l'adolescence, eh bien, c'est 80% de risque en plus de cancer cutané à l'âge adulte. Ça veut dire que la première des protections, eh bien, c'est de mettre des vêtements. Et puis sinon, bah, je conseille de mettre de la crème solaire sur sa verge. Alors évidemment, je pense qu'un petit tube devrait suffire. Parce que il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais bon,
ça dépend.
Pour se protéger, donc voilà, ce serait bien qu'il se protège.
D'accord. Ok. Ouais, avec... haute protection 50 au moins hein, pour la
vache. Oui, indice de protection, exactement. C'est parce qu'en temps normal, le zizi il est dans le slip et donc il n'est pas exposé à la lumière.
C'est ça. Ces zones qui n'ont pas l'habitude, elles
exactement.
Sont plus fragiles.
Vous
en
allez
plus,
le sortir,
hein, de fait,
vous allez prendre l'air, ça va être très sympa. Mais attention, et puis autre chose, le fait d'avoir le zizi tout le temps en l'air, eh bien il y a un risque que le testicule pende, c'est ce qu'on nous avait dit, et qu'il y ait besoin après derrière de faire une chirurgie du scrotum pour faire remonter les bourses, un lifting du scrotum. Donc le naturisme, voilà, avec parcimonie et précaution sur les parties génitales.
Attention, d'accord. Il évoque le fait d'être circoncis, est-ce que ça entraînerait effectivement une fragilité supplémentaire sur ce gland du coup complètement à découvert?
Alors la circoncision, c'est le prépuce qu'on va retirer au bout du gland. Ce prépuce, normalement, il sert à protéger la muqueuse qui est en dessous. Étant donné que vous allez être exposé au soleil ou à l'air libre, eh bien cette muqueuse, eh bien elle va devenir kératinisée. C'est pour ça que le bout du zizi, le prépuce, le gland des personnes circoncis n'a pas tout à fait la même texture. C'est quasiment comme de la peau. Et donc on pense que ce serait une forme de protection contre certaines IST. Encore une fois, ça ne remplace pas le préservatif. Donc voilà, il faut se protéger, il faut faire attention à ces
parties
génitales.
On protège tout du soleil, on a bien compris, on tartine de crème. Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Vraiment, on n'avait peur d'aucune question, c'est ça qui fait plaisir.
Europe 1.
Dans un instant, notre grand dossier du jour dans lequel on va tout vous dire sur les problèmes de strabisme chez les enfants principalement. Quand faut-il consulter? Comment traite-t-on aujourd'hui les enfants concernés? On y revient très vite, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. Bienvenue professeur Dominique Brémond-Gignac, bonjour.
Bonjour Mélanie, un plaisir de vous retrouver.
Et également, bonjour Jimmy. Également, vous êtes chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades. Et donc avec vous aujourd'hui, on va décortiquer ce qu'est le strabisme, je devrais même dire les strabismes et comment on les traite évidemment. Parce que ce que les gens ne savent pas, j'ai dit les strabismes, parce que ce n'est pas finalement juste loucher. Quand on parle du strabisme, donc des strabismes, en fait, il y a plusieurs formes, lesquelles, grosso modo, on va dire.
Alors, effectivement, il y a plusieurs formes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est déjà que le strabisme, ça correspond à une perte d'alignement des globes oculaires, donc des yeux. Donc, les yeux ne sont pas tout à fait droits. L'un doit aller en même temps que l'autre. Alors, évidemment, il y a des mouvements dans lesquels c'est moins simple. Par exemple, quand on se met à lire obligatoirement, quand on lit, évidemment, dans ces cas-là, on est obligé de faire converger ses yeux. Donc, il y a une perte d'alignement. Mais quand on regarde devant soi, l'enfant doit regarder avec les yeux alignés. Alors bien sûr, il y a plusieurs formes de strabisme. Globalement, il y a vraiment deux formes importantes. C'est quand les yeux partent vers l'intérieur.
Ça, c'est le loucher, quoi.
C'est loucher. Le strabisme dit convergent. Mm-hmm. Ou quand l'œil part, les deux yeux partent vers l'extérieur. Un ou deux, d'ailleurs, parce que c'est un petit peu compliqué. Ça, ce sont les strabismes qui ont dit horizontaux, qu'ils soient convergents ou divergents. Et puis, il y a deux strabismes qui sont moins fréquents, mais qui peuvent être combinés aussi, qui sont au lieu d'être horizontaux, ils sont verticaux, donc vertical,
donc un œil ou les
supérieur,
deux qui partent vers le haut, ou vers
vertical,
le bas,
inférieur. Et puis tout ça peut être un petit peu combiné dans des choses un peu plus complexes. Voilà.
Est-ce que le strabisme peut apparaître tout d'un coup à 35-40 ans ou c'est quelque chose qu'on a développé forcément dans la petite enfance? Et d'ailleurs, est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a beaucoup de strabisme en France? Est-ce qu'on a une idée de la population qui est touchée?
Alors, c'est quand même quelque chose de répandu puisqu'il y a à peu près 3-5% de strabisme. C'est quand même pas rien, c'est pas négligeable. Et ça peut apparaître en fait à n'importe quel moment, mais globalement, ça apparaît dans l'enfance. Alors, mais par exemple, vous pouvez avoir un enfant qui n'a rien jusqu'à l'âge de 2 ans, puis tout d'un coup va développer un strabisme. Ça, c'est vraiment, ça doit faire absolument consulter rapidement, évidemment. Et puis, il y a des strabismes qui existent aussi dès la petite enfance. Et même
dès la naissance. Parce que on le voit, tous les bébés qui naissent, ils ont les yeux qui partent un peu dans tous les sens. On a tous l'impression que nos bébés louchent ou que les yeux partent à droite, à gauche. Ça, c'est normal. Le nourrisson, il a un regard qui est pas droit, quoi. Hein.
Alors, tout à fait, c'est parfaitement vrai, puisque en fait, à la naissance, l'enfant a une acuité visuelle, une vision qui est très basse.
Presque aveugle, c'est ça.
On avait, nous, un 20e, on serait très gênés. Et donc, ce qui fait qu'ils ont du mal à bien aligner, et donc il faut qu'ils se calent. Mais par contre, si un enfant, même petit, en tout cas, même déjà moins de 3 mois, a vraiment un strabisme permanent, il faut quand même s'inquiéter. Et par contre, si c'est intermittent, c'est-à-dire juste de temps en temps, ça se met à partir un petit peu là où il ne faut pas, ça peut, jusqu'à l'âge de 3 mois, ça peut être tout à fait habituel. Le plus habituel, ce sont les strabismes convergents, parce que les tout petits, ont en fait un excès d'accommodation convergence. Et donc, tout d'un coup, ils ont les yeux qui partent vers l'intérieur. Mais au-delà de 3 mois, c'est sûr qu'il faut consulter rapidement.
Et du coup, à quel âge on pose le diagnostic de strabisme? Ça veut dire qu'il faut qu'on surveille ça durant les premières années de la vie d'un enfant?
Exactement, c'est-à-dire qu'il faut surveiller régulièrement, mais on peut poser un diagnostic de strabisme, même tout petit. Hein. Ça, c'est pas.
Mais
c'est
le pédiatre,
pas un problème.
Il regarde ça à chaque visite, j'imagine, parce que vous disiez, ça peut arriver tout d'un coup à 2 ans. C'est vrai qu'on les voit, les pédiatres, ce ne sont même pas des ophtalmos, mais regardez les yeux de nos enfants avec des petites lumières, là, c'est pour ça aussi, notamment.
C'est la mission du pédiatre.
Ouais, c'est ça.
La première semaine de vie, il y a un contrôle quand même des yeux, des globes oculaires. Il y a un contrôle par le pédiatre ou même le généraliste à 2 mois, 4 mois, 9 mois, 2 ans. Donc ça, normalement, ça fait partie des clous habituels. Et puis, par contre, l'ophtalmologiste pourra intervenir si vraiment on constate quelque chose, et en particulier les parents, éventuellement.
Parce qu'un enfant qui a un strabisme, est-ce qu'il voit comme les autres ?
On se demande, c'est vrai, s'il voit déformé ou est-ce qu'on voit...
Est-ce qu'il est myope en plus ? Est-ce qu'il y a plus de pathologies associées ?
Alors, justement, c'est ce qu'on vérifie quand on fait un examen ophtalmologique, puisqu'on va chercher s'il y a une anomalie de réfraction, c'est-à-dire qu'il soit hypermétrope, le plus souvent quand c'est convergent, ou alors divergent plutôt myope, ou astigmate éventuellement. Donc, il y a pas mal d'autres choses. Et puis, il peut y avoir aussi le fait que, comme il y a un œil qui va être le plus aligné par rapport à l'autre, il va y avoir une perte, en fait, de vision, éventuellement de cet œil qu'on appelle l'amblyopie, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu plus.
Exactement.
En tous les cas, le diagnostic peut se faire vraiment très, très précocement.
Mais un enfant qui louche, il voit double, par exemple, ou pas ?
Alors non.
C'est ça,
non, évidemment, heureusement que l'enfant ne voit pas double, parce qu'en fait, il va neutraliser, c'est-à-dire que l'œil qui n'a plus le même axe ne sera pas compté, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il risque de perdre un peu la vue de cet œil-là. Et donc, l'enfant ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est soit le pédiatre, l'ophtalmo, le généraliste qui va pouvoir dépister, soit c'est les parents. Et je fais toujours très très confiance aux mamans.
On doit se faire confiance, hein, ça, là-dessus, si on voit qu'il y a un truc bizarre sur le regard, on consulte.
Il faut se faire confiance, ouais. Il faut faire confiance à l'entourage, il ne faut pas hésiter à les contrôler, parce que ça c'est vraiment important. Et puis vous aurez aussi la possibilité, quand c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec l'ophtalmologiste, d'avoir déjà un pré-rendez-vous avec une orthoptiste, parce qu'elle pourra faire le dépistage, elle a dans ses... Dans ces petits examens, elle peut faire ce qu'il faut déjà.
Très bien. Professeur Brémond Gignac, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on vous dit tout sur les strabismes cet après-midi. Ces problèmes d'alignement des yeux qui peuvent à long terme entraîner un problème d'acuité visuelle redouté des médecins, l'amblyopie. On vous en dit plus dans un instant. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors en studio avec nous, c'est vous, professeur Dominique Brémond Gignac. Je rappelle que vous êtes chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades. Et donc, on fait le point cet après-midi sur les problèmes de strabisme. Vous nous l'avez dit, hein, ces enfants, il faut les prendre en charge tôt. Hein, le plus tôt, c'est le mieux. On est très surveillés d'ailleurs dans ces premiers mois de vie, je dirais. Notamment à cause d'une complication que vous avez un petit peu amorcée tout à l'heure, que vous appelez donc l'amblyopie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'amblyopie ?
Tout à fait. Dans la mesure où, en fait, dans un strabisme, il va y avoir un œil qui va garder la préférence, l'autre œil va progressivement perdre sa vision. Et donc, cet œil amblyope va être un œil
feignant, c'est un œil qui devient feignant.
Voilà,
ouais,
c'est ça. C'est plus complexe que ça, parce que c'est vraiment une conséquence cérébrale si on ne le prend pas tôt.
Ah,
donc,
oui.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment des neurones derrière qui vont le dégénérer.
Wow.
Et donc, c'est très important de le prendre précocement. Si on prend très tôt cette amblyopie, on peut la rééduquer. Et la rééduquer, récupérer une acuité. S'il y a bien sûr rien d'autre de sous-jacent, mais si c'est vraiment cette amblyopie, on peut la rééduquer complètement jusqu'à récupérer 10 dixièmes. Alors que parfois, on a des enfants qui n'ont que 1 dixième de cet œil-là et on peut remonter à 10 dixièmes.
C'est les petits enfants qu'on voit avec un cache parfois dans la rue, hein, c'est ça,
c'est
j'imagine.
Ça. Et tout à fait, ouais. C'est ce qu'on appelle l'optique. Enfin,
on fait travailler l'œil feignant.
C'est ça,
quoi, hein,
c'est notre occlusion pirate. Exactement, c'est ce qu'on essaye d'expliquer parce que c'est pas toujours facile de faire accepter ça à l'enfant. Il faut que les parents soient impliqués aussi, comprennent pourquoi c'est vraiment très important. Et plus on le fera tôt, plus on dépistera tôt cette amblyopie et meilleurs seront les résultats. Pour vous dire, après l'âge de 6 ans, les résultats sont beaucoup, beaucoup moins bons. Et après l'âge de 12 ans, c'est vraiment impossible de récupérer.
Ouais.
Donc, c'est vraiment le handicap de l'adulte.
Oui, parce que j'ai deux amis médecins qui sont amblyopes. Ils ont des lunettes et malgré la correction, ils ne voient pas correctement.
Ouais.
Mais du coup, quand ils étaient plus jeunes, est-ce que l'amblyopie... Les parents ont pu s'en rendre compte. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent faire dire bah « Tiens, mon enfant commence, en dehors du strabisme, d'avoir peut-être eu un œil atteint, c'est peut-être compliqué. » C'est peut-être pour ça qu'il faut aller voir l'ophtalmo.
Alors, déjà, c'est pour cette raison-là qu'il faut avoir des contrôles réguliers pour les enfants. La deuxième chose, c'est que quand on est dans une famille où il y a eu des strabismes, il faut faire vérifier son enfant régulièrement parce que ça peut avoir une composante familiale. Il faut bien sûr... On peut parfois tester aussi l'enfant en cachant un œil puis l'autre pour voir s'il est gêné. Parce que même petit, en fait, il suffit juste de mettre sa main et puis de voir si l'enfant est gêné. Donc, dans ces cas-là, on peut dépister une amblyopie. Après, il ne faut pas, bien sûr, il ne faut pas non plus plus, complètement faire une fixation dessus. Et je pense que les contrôles réguliers, c'est quelque chose de très bien.
Ça permet de ne pas passer à côté. On va revenir au strabisme. On n'a pas encore évoqué les causes de ce défaut. Pourquoi ? Vous disiez qu'il y a peut-être eu, donc là pour l'amblyopie, et j'imagine pour le strabisme pareil, une composante héréditaire. Mais pourquoi un enfant va loucher, par exemple ? On oublie parfois, mais il y a des muscles dans les yeux déjà. Donc c'est souvent là le problème.
C'est cette balance qu'il doit y avoir entre les muscles qu'on dit oculomoteurs, donc les muscles qui vont régir le mouvement des yeux. Et donc, c'est cette balance qui ne se fait pas correctement parce que le signal reçu, aussi au niveau, ce qu'on appelle sensoriel, au niveau du cerveau, finalement, n'est pas suffisamment efficace pour réaligner les yeux. D'où l'intérêt d'avoir un dépistage précoce, de façon à, par exemple, corriger, avoir une correction optique, parce que parfois, certains strabismes nécessitent uniquement des lunettes, c'est ce qu'on appelle les strabismes accommodatifs. Vous leur mettez des lunettes d'hypermétrope, enfin des verres correcteurs d'hypermétrope, et en fait, ils vont se redresser complètement. Par contre, dès que vous retirez les lunettes,
Enfin,
il faut le savoir. Ouais. Et puis, donc, ça, c'est vraiment des points importants. Et puis, ensuite, il peut y avoir d'autres causes sous-jacentes plus importantes.
Du coup, si on vous amène un enfant qui a un strabisme ou une suspicion, qu'est-ce que vous faites comme examen pour confirmer ? Et puis, est-ce que vous recherchez d'autres trucs d'ailleurs à côté ?
Oui, tout à fait. Alors, on va donc, en premier lieu, on fait un examen complet. Ce n'est pas toujours facile chez un enfant qui est bien sûr en âge préverbal, donc qui ne parle pas, ou qui n'est pas toujours facile, mais on va regarder, ça c'est assez simple, de regarder ses reflets au niveau de la cornée, comme ça on va voir déjà si les reflets sont alignés.
Ah oui.
Donc ça, c'est la première chose. Après, on va faire un examen complet, on va vérifier s'il a besoin d'une correction optique. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle une cycloplégie. On va mettre des gouttes. Il faut absolument faire attention à ce que ces gouttes soient mises pendant une heure. 10 minutes, ça ne marche pas. Mais pendant une heure, ou alors des gouttes d'atropine qui sont mises sur une semaine. Donc soit des gouttes avec du Skyacol, soit avec des gouttes d'atropine, de façon à ce qu'on bloque l'accommodation et qu'on puisse mesurer avec nos appareils, qui sont des réfractomètres. C'est un appareil de mesure qui vont vous donner... globalement, la puissance des verres qu'il faut mettre.
N'importe quel ophtalmo de ville est capable de faire ça ? Ou quand on a une suspicion de strabisme dans la famille, enfin pour un enfant, vaut mieux l'amener chez un ophtalmo un peu spécialisé,
alors,
je ne sais pas ?
Alors, normalement, l'ophtalmologiste doit le savoir. La seule chose, c'est que les ophtalmos qui ne sont pas spécialisés n'ont pas forcément les appareils pour les enfants.
Ouais.
Donc, c'est vrai que si vous avez la possibilité de faire contrôler par un ophtalmo pédiatre, ça sera toujours mieux.
Ouais.
Mais je comprends aussi que dans certaines régions, ça ne soit pas facile. Donc, il vaut mieux faire quelque chose que rien du tout, mais s'assurer vraiment une chose, c'est que l'ophtalmologiste, même généraliste, va faire ce qu'on appelle cette cycloplégie et mesurer.
Donc plutôt on traite, mieux c'est. Et on n'a pas parlé de la souffrance psychologique, parce qu'un enfant qui a un strabisme peut souffrir de moqueries à l'école. C'est important aussi de prendre en considération ça.
Et la qualité de vie est vraiment très importante. Et effectivement, ça a été évalué sur certaines études. Et on a démontré que l'enfant qui a vraiment un strabisme qui est visible, parce que certains strabismes ne le sont pas quand c'est un tout petit angle, mais quand c'est visible, il y a vraiment une baisse de la qualité de vie de l'enfant. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte.
Très bien. Professeur Brémond-Gignac, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Ne bougez pas.
Europe 1.
Sans rendez-vous, revient dans un instant et on va passer évidemment au traitement des problèmes de strabisme. Cela va de la rééducation orthoptique en passant par des injections de toxines botuliques jusqu'à la chirurgie. On va tout vous expliquer, alors restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être est de retour très vite, juste après un peu de musique. C'est un classique, Michel Berger avec Celui qui chante.
Celui qui chante. Joint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous. Il cherche ce qu'il voudrait comme nous. Mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante. Celui qui chante. Retrouve la vie. Retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandi et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante. Celui qui chante. We'll be right back.
au-dessus de tout, celui qui chante.
Le grand Michel Berger sur Europe 1 avec son morceau culte, celui qui chante.
Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Europe 1 vous fait gagner 2 places à Roland Garros pour la finale de votre choix. Homme ou femme, c'est vous qui choisissez. Pour jouer et avoir une chance de gagner, envoyez tennis au 739-21. Le tirage au sort s'effectuera demain, le mercredi 9 juin. Alors je vous le répète, c'est tennis au 739-21. Bonne chance à tous.
Tennis au 7-39-21.
75 centimes plus coût d'un SMS. 2 SMS pour jouer.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et on vous dit tout aujourd'hui sur les problèmes de strabisme avec notre invité, c'est vous, professeur Dominique Brémond-Gignac. Je rappelle que vous êtes chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades. On va passer à la prise en charge des problèmes de strabisme. Déjà, qu'ils soient, on va dire, divergents, convergents, on a compris qu'il y en avait même d'autres, l'approche va être la même. Hein, la première consultation, vous allez faire la même chose. Et est-ce que d'ailleurs, il y a des strabismes qui ne nécessitent aucune prise en charge?
Un vrai strabisme, non, ça nécessite une prise en charge. Ouais. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Ça va reposer sur plusieurs principes. Le premier principe, c'est de donner la meilleure acuité visuelle possible à l'enfant. D'où l'intérêt de le corriger avec des verres correcteurs, avec des lunettes. Alors parfois, il y a certains strabismes qui n'ont pas besoin de lunettes. Donc ça, c'est déjà un problème. La deuxième chose, c'est de donner la même vision des deux yeux. Et c'est là où on va traiter l'amblyopie avec cette dite occlusion, c'est-à-dire avec ce petit patch.
Le
petit cache de pirate, exactement. Mmh. Et donc, on va ajuster dans la journée le nombre d'heures que l'on pourra appliquer de façon à ce que l'enfant...
Ça peut être beaucoup d'heures, oui.
Ça peut être
général,
beaucoup d'heures pour certains, ouais. Mais... En tous les cas, il faut absolument qu'on s'en sorte pour que cette vision de cet œil qui est paresseux remonte. Donc ça, c'est les deux principes de base.
Et si on parle d'œil paresseux, est-ce qu'on peut essayer de le rééduquer d'une autre façon, comme de la kinésithérapie? Est-ce que c'est des choses qui existent pour remuscler l'œil et le remettre dans le bon axe?
Alors non, on ne remuscle pas l'œil.
Il
n'y
a pas de musculation, il n'y a pas d'haltère pour les yeux.
Il n'y a pas d'haltère pour les yeux. On pourrait bien sûr muscler les muscles, mais en fait là, on rééduque la vision. C'est la différence, en fait. Donc, malheureusement, il n'y a pas ça.
Mais il y a l'orthopsie, quand même, c'est ça.
Alors, voilà, ouais. On peut avoir d'autres choses, quand même, qui peuvent être utiles. Par exemple, au lieu de cacher, on peut mettre des gouttes pour que ça baisse la vision du bon œil. On peut mettre sur la lunette, on peut mettre un petit cache. Mais c'est moins efficace que le vrai cache. Et puis, la deuxième chose, c'est l'orthopsie. Alors, l'orthopsie, elle ne va pas soigner. Elle va, par contre... faire travailler éventuellement, ouais. Mais un vrai strabisme, c'est pas comme ce qu'on appelle les exo ou ésophories, c'est-à-dire pas des strabismes, mais c'est des anomalies d'alignement, mais qui sont intermittentes. Dans ces cas-là, là par contre, l'orthoptiste pourra vraiment agir. Mais l'orthoptiste, dans le strabisme, elle va faire surtout le bilan. D'accord. Régulier.
Alors, il faut savoir que le traitement historique du strabisme, c'est l'une des premières indications. C'est la toxine botulique. On fait quoi avec c'est du botox. Hein. Moi, je dis le botox, c'est
vrai,
hein, c'est ça, dans l'œil. Donc,
c'est du botox.
Et ça va servir
dans
à l'œil, quoi.
Non,
ouais.
Pas dans l'œil, dans les muscles.
Dans les
quand
muscles
même,
de l'œil, oui,
sérieux,
bien sûr, bien
sérieux.
Sûr.
Donc, en fait, l'idée est que quand on a des muscles qui sont trop actifs, par exemple, quand vous avez un strabisme convergent vers l'intérieur, eh bien, quand il est très important, qu'on sait que la correction optique ne va pas pouvoir corriger justement cet alignement, on va injecter dans le muscle cette toxine qui va créer en sorte, en quelque sorte, une paralysie en fait, du muscle. Et ce qui fait que les yeux vont naturellement se remettre en position plus classique, c'est-à-dire revenir vers l'extérieur.
Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer une opération? Est-ce que ces choses qui se font pour essayer de corriger un strabisme? Comment ça marche? Est-ce que les parents acceptent qu'on opère les yeux de leurs enfants, juste pour ça, entre guillemets, même si on a compris les
enjeux. Ça pouvait être très grave.
L'enjeu.
Alors, On va, bien entendu, il est possible d'opérer. Déjà, si on veut faire de la toxine, on est obligé d'endormir les enfants. Donc, en soi-même, c'est quand même une intervention, même s'il est très courte, même s'il est rapide, ça reste une intervention. Et puis, d'autre part, une fois qu'on a essayé ces strabismes avec toxine, mais ce n'est pas tous les strabismes qui peuvent bénéficier d'une
c'est
injection
du cas par
de toxine.
Cas, hein, quoi qu'il en soit.
C'est du cas par cas et ce n'est pas du tout le plus fréquent. C'est pas du tout le plus fréquent. En fait, une fois qu'on aura rééduqué à la fois la vision, qu'on sera arrivé au maximum de ce qu'on peut faire pour que la vision soit bonne et que la correction optique soit bonne, si à un moment on n'arrive pas à faire mieux, on fera une chirurgie. Et cette chirurgie, le plus souvent, elle sera plutôt effectuée bien sûr avant l'âge de l'école primaire, entre la moyenne section et la grande section.
Mais c'est lourd comme intervention, ils sont hospitalisés les enfants ou comment ça se passe?
On ne les hospitalise plus. Ouais. Donc,
on rentre le matin,
on sort le soir. Ouais, exactement. Ouais. On fait quand même attention à leur donner des antalgiques et même pour cela, on va laisser lors de la chirurgie des anesthésiques sur place, sur site, de façon à ce qu'ils aient le moins mal possible. On ne les laisse pas avoir mal, hein. Mais ça peut être un petit peu douloureux ou du moins un petit peu désagréable.
En deux mots, les résultats sont satisfaisants de cette chirurgie en général aujourd'hui, oui, hein, vraiment.
Aujourd'hui, les résultats sont très satisfaisants. Il peut toujours y avoir quelques retouches chirurgicales, mais très honnêtement, ça aide beaucoup les enfants. Et ça n'est pas uniquement juste l'aspect esthétique. C'est-à-dire que les enfants, en général, récupèrent aussi une meilleure lecture et ils ont vraiment une meilleure activité en classe.
Merci beaucoup, professeur Brémond-Gignac, pour cet éclairage sur toutes ces problèmes d'alignement des yeux, ces différentes formes de strabisme. Bonne continuation à vous et merci encore.
Europe.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed va tout nous dire sur les calculs rénaux. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Les Bobos du quotidien. On vous propose aujourd'hui un éclairage sur les calculs rénaux. Savez-vous comment se forment ces petits cailloux? D'ailleurs, est-ce que ça fait toujours souffrir les calculs rénaux? Comment s'en débarrasse-t-on et quand ils posent problème? On va tout vous expliquer. Mais avant ça, écoutons le micro-trottoir de Barbara Silvera Sonigo.
Aïe, ça me fait mal de rien dépenser.
Les calculs rénaux, c'est une douleur abominable. Hein. T'es plié en deux.
C'est un calcul, donc une espèce de petit caillou qu'on a dans les reins.
Un petit caillou de sang qui se met dans des endroits pas très sympathiques. Dans les reins, dans la vessie.
Il peut même être au niveau de la vésicule biliaire.
Je dirais que c'est dû à une mauvaise hydratation.
Quand on mange trop salé, quand on a une mauvaise alimentation.
Un problème d'équilibre entre différents minéraux.
Aussi, ça peut être génétique.
Je pense que c'est aussi peut-être viral.
Je crois qu'il y a des traitements, des médicaments pour essayer de faire dissoudre les cailloux.
Traitement laser peut-être, et sinon peut-être opération.
On les explose en fait, et après il faut les évacuer quand même en faisant pipi.
Ça peut se reproduire plusieurs fois, quand on en a, on est souvent assujetti à ce cas.
Alors Jimmy, d'abord, les calculs rénaux, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment des cailloux?
Oui, c'est des petits cailloux, des calculs différentes compositions, essentiellement du calcium. Vous avez plusieurs types, le phosphate de calcium, l'oxalate de calcium, ou même l'acide urique, vous savez, ce qui donne la goutte.
Oui.
Et donc, ces petits cailloux vont se mettre dans les voies urinaires, entre le rein et l'entrée du méa urinaire, et donc vont bloquer le passage de l'urine et faire très très mal.
Qu'est-ce qui fait? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent, ces calculs, tout d'un coup? C'est pas en buvant qu'on avale un caillou, donc ils se forment, et
exactement.
C'est vraiment à cause de quoi?
Alors, c'est 10% de la population qui aura quand un calcul néphritique. Ouais. Alors, il y a une part héréditaire, dans 40% du temps, on retrouve une histoire familiale. Et puis, il y aurait aussi le premier facteur, on arrive au niveau de l'été, ce qui va prédisposer
buvez,
le fait de ne pas boire suffisamment, eh bien, vous allez avoir une miction, une diurèse, c'est-à-dire une quantité d'urine qui va être insuffisante, propice au développement des calculs. Et puis ensuite, on sait qu'au niveau de l'alimentation, si vous mangez très salé, vous avez une augmentation du risque de calcium qui peut être plus élevé. Et puis, certains aliments qui vont être riches en oxalate, qui vont donner l'oxalate de calcium, ce petit calcul, comme le chocolat, les fruits secs ou les épinards. Et puis, du côté d'autres bases qui vont donner, comme l'acide urique, vous avez les abats et la charcuterie. Donc, il existe certains facteurs alimentaires qui peuvent donner justement des calculs. Mais le principal, c'est l'hydratation.
Voilà, quand je disais, d'ailleurs, l'hydratation avec de l'eau, hein, on est d'accord, on ne parle pas d'autre chose.
Oui. Hein,
voilà. Jimmy, est-ce que ça fait nécessairement mal d'avoir des calculs rénaux?
Alors, on peut ne pas se rendre compte qu'on a des calculs puisqu'ils sont tout petits ou situés dans une zone du rein qui ne fait pas mal. Et donc, vous ne pouvez avoir aucun symptôme. À l'inverse, quand le calcul va venir bloquer l'urine dans les voies urinaires...
Ça fait mal et ça peut faire très mal.
Exactement. C'est des douleurs insupportables qu'on décrit un peu comme celle d'un accouchement.
Sans péridurale. Hein.
Sans péridurale. Parce que quand on demande aux patients entre 0 et 10, 0, vous n'avez pas mal. 10, c'est la pire douleur de
ils
la
vous
Terre.
Quoi, vous, en consultation?
11 ou 12.
Ah oui.
Tellement ils ont mal et donc, ils dansent. Ouais. Et on dit d'ailleurs colique néphrétique frénétique. parce que le patient n'a pas de position antalgique, il bouge dans tous les sens, il est très agité du fait de la douleur, il peut vomir, être en sueur, donc c'est vraiment extrêmement mal toléré.
Bon, j'allais dire c'est une urgence, mais de toute façon ils ont tellement mal que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui restent coincés avec une colique néphrétique. Jimmy, pour traiter, comment on fait? Est-ce que ça peut passer tout seul? Et sinon, comment on intervient?
Ça passe rarement tout seul. Ouais. Le traitement repose sur des anti-inflammatoires qu'on fait souvent sous forme d'injection. Ça va relâcher les voies urinaires pour permettre au calcul de passer. Lorsque ça ne marche pas, eh bien là, on doit passer par la case chirurgie.
Il y en a un qui disait on va l'exploser, le caillou.
On peut l'exploser. Ouais. En revanche, il faut retenir trois choses. Trois critères de gravité d'un calcul au niveau des reins. Un, si vous faites de la fièvre, c'est une urgence, c'est qu'il y a une infection. Deux, si jamais vous ne pissez plus, ça veut dire que le calcul bloque totalement les urines. Et trois, si vous n'êtes pas soulagé, évidemment qu'il faut consulter. Ou si jamais vous avez des antécédents au niveau des reins, comme par exemple un rein unique, c'est ce qui doit vous faire consulter aux urgences absolument.
Très bien, merci beaucoup Jimmy, c'était vraiment très clair comme toujours.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous de retour bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. Restez avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Vous êtes avec nous depuis 15h et donc jusqu'à 16h, on va passer à la toute dernière séquence de l'émission avec vous, Catherine Blanc. Vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va écouter la question de Linda, 26 ans.
Bonjour Catherine, je vous appelle parce que j'ai une petite question. Voilà, mon copain est très timide dans la vie et ça se ressent vachement au lit. Il ne fait pas du tout de bruit ni de gémissement et en fait, ça me perturbe vachement. Je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je devrais lui en parler ?
Alors Catherine, c'est étonnant effectivement comme question. C'est vrai que bon, quand on prend du plaisir dans les rapports sexuels, en général, il y a des petits bruits. Enfin, pas forcément, on n'est pas obligé d'hurler, mais il y a des petits gémissements à minima, là, rien du tout. Il y a des gens qui sont complètement silencieux.
Oui, comme vous avez des gens qui, quand ils rient ou sourient, c'est interne. Il n'y a pas de son qui sort.
Jimmy,
vraiment...
c'est un peu amélioré depuis 2 ans, mais maintenant, il y a les dents, vous voyez, mais un temps, ils riaient intérieurement.
Voilà. C'est ça. C'est parfois intérieur pour nombre d'entre nous. Et puis pour d'autres, c'est très explosif, très démonstratif. Et on pourrait aussi s'en étonner, hein, d'ailleurs. C'est un petit peu, puisqu'on est dans la période du tennis, vous souvenez-vous, quand Céleste, la première, faisait ses
Il y en a qui crient plus fort que d'autres au tennis aussi. Ouais.
Avec des cris qui avaient d'ailleurs des allures un peu qu'on assimilait à des choses sexuelles, qui avaient fait évidemment parler beaucoup de monde. Et évidemment que le son permet la puissance du ressenti, ne pas se permettre la liberté de la respiration qui est plus forte, plus rapide, et du souffle qui se fait son, c'est un peu limiter aussi le plaisir. Donc c'est dommage. Mmh. Ceci étant, liberté, liberté chérie, parce que on peut y voir quelque chose qui fait référence à quelque chose de vulgaire ou quelque chose que l'on a pu entendre et qui nous a choqué, ou que c'est issu de la pornographie qu'on ne veut pas répéter. Ou alors, tout simplement, le sentiment que ce serait, parce qu'on n'a pas encore ce ressenti suffisamment fort pour que le corps exige le son, que ce serait donc un son arbitraire, factice et donc absolument inutile.
Et là, Linda, elle fait un lien entre son tempérament dans la vie de tous les jours et le tempérament qu'il pourrait avoir dans les relations intimes. Est-ce que c'est un lien qu'on peut faire? Est-ce que quelqu'un qui est très exubérant, qui rigole beaucoup, sera très démonstratif? Pour vous rigolez, Mélanie.
Non, pour rien.
Vous ne vous sentez pas visé, Mélanie.
Non, pas du tout.
Pas de vous.
Mais non, continuez, Jimmy. C'est très intéressant.
Mais est-ce que du coup, on va retrouver ce tempérament-là au lit, ou peut-être pas spécialement? Enfin, je ne sais pas, Mélanie, peut-être nous...
J'ai rien à dire, moi, Catherine.
Bon. Donc, vous riez comme tous les
deux. Non,
c'est une vraie question. Hein, c'est vrai. Oui, parce qu'elle-même fait le lien.
Voilà. Non, en fait, je pense qu'on n'est pas très différents. Évidemment, c'est rare que de quelqu'un d'extrêmement timide soit tout d'un coup dans un total lâché d'un point de vue sexuel. À moins, encore une fois, comme je le disais, de faire un truc complètement fabriqué. Mais sinon, la timidité peut s'exprimer comme cela. Ne pas laisser tout ce qui est pulsionnel, tout ce qui est pulsionnel du corps, quoi, de l'expression du corps s'exprimer. Et c'est une souffrance pour la personne qui est coincée, parce que tout le monde rit, tout le monde participe d'eux, tout le monde parle. Et puis, il y a une petite voix fluette, il y a un rire qui ne s'autorise pas.
Mais là, même
et
pas de gémissement, elle dit rien du tout. Voilà. C'est silence total.
Et ce qui est un peu désarçonnant, parce que du coup, elle ne sait pas, je lui fais quoi? Du bien, du mal?
C'est pour se rassurer, en fait, qu'elle a besoin qu'il y ait un peu de bruit, quoi.
Oui, et pour la guider, parce que quand on te lançait, imaginez que vous fassiez des guillis à votre enfant, et que votre enfant reste de marbre.
Je serais déçue.
Bah oui, vous seriez déçue parce que vous ne faites pas de guilis pour vous prouver que vous êtes la reine des mamans qui fait des guilis, mais vous avez envie qu'il quelque chose se noue entre vous et votre enfant.
Et puis on veut entendre ce rire délicieux.
Voilà, d'abandon, ouais. D'extase, de rire qui se perd dans des aigus, etc. Et que si évidemment il ne se passe rien, vous vous demandez pourquoi vous ne lui racontez pas tout simplement autre chose ou faites une autre action. Donc vous avez besoin de sentir que votre action a un écho. Donc je crois que ce qui serait important, c'est que déjà Linda lui dise qu'elle est souvent troublée parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Alors il dira peut-être, mais si, ça me plaît. Il dit, mais je ne sais pas parce que tu n'en témoignes pas. Ni dans les mots, ni après, ni dans les sons, ni dans la respiration. Rien ne semble te perturber. Or, par essence, la sexualité est perturbante.
Donc, après, c'est difficile de se forcer aussi. S'il a toujours fonctionné comme ça, alors, pour lui, ça peut être compliqué.
Exactement.
Hein.
Donc, si la performance est au rendez-vous, ce n'est pas du stand-up, là. Donc, s'il est efficace.
Vous avez raison, ce n'est pas du stand-up. Mais le problème, c'est qu'elle ne vient pas chercher que son plaisir, elle vient chercher une rencontre. Donc, ce n'est pas parce que lui, parce qu'elle a joui ou eu un orgasme qu'elle est satisfaite, parce qu'elle veut sentir qu'il y a une réciprocité, qu'il y a un écho, qu'il y a une conversation entre les deux. Donc, le mieux pour aider quelqu'un qui est timide, c'est lui dire. N'aie pas peur, on s'aime suffisamment pour que tu ne vas pas être écouté et jugé. Donc d'abord, être libre de sa propre expression pour que son noie le sien. Oui. Ce qui fait qu'il pourra se mêler et se mettre à chantonner avec elle, en quelque sorte. Ou alors, c'est de faire l'amour en musique tonitruante. Comme ça, on n'entend plus rien, mais comme ça, il s'habitue à pouvoir émettre du son et des souffles parce que c'est protégé par une musique d'ambiance.
Des conseils très pratiques aujourd'hui, Catherine.
Oui, écoutez,
c'est bien.
Soyons un peu pratiques, parce qu'on peut comprendre qu'il y a des tas de choses qui inquiètent, notamment peut-être que les gens d'à côté entendent. Donc faisons du bruit.
Allez,
par ailleurs.
Mettons de la musique, moi j'ai bien aimé. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On revient demain, même heure sur Europe 1. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Est-ce que vous avez des secrets Mélanie? Parce que aujourd'hui, elles ont de sacrés secrets. C'est notre thème, Stéphane.
Exactement. Margaret Ann Bulkley, qui en fait a fait carrière comme chirurgien sous le nom d'un homme, Romy Schneider, qui a avoué un jour que sa maman avait fricoté avec Hitler.
Fricoté avec le Führer.
Oui. Et vous allez nous parler de Carrie Fisher, qui a raconté qu'elle avait Princesse Leia.
La Princesse Leia et Harrison Ford sur le tournage de Star Wars. Visiblement, ils ont un peu joué au docteur en coulisses.
Des secrets dévoilés, on adore ça évidemment. On reste avec vous, et vous aussi qui nous écoutez, restez sur Europe 1. Hein.